hits right now.
Radio G 101.5 FM.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Olivier.
Salut.
Salut Pablo.
Salut.
Alors ce soir, on va parler de cinéma. On a chacun un film à présenter, je crois.
Voilà.
Ouais, cool.
On va parler de séries télé, on va parler de philosophie, de livres, tout ce qu'on aime, quoi.
Voilà. D'habitude. C'est parfait.
On salue les auditeurs, les auditrices.
Oui.
On espère pouvoir être à l'antenne la semaine prochaine, mais on n'en sait rien.
Voilà.
On va essayer d'écouter ce que nous dit le président ce soir.
Bah oui.
Mais en tout cas, ce soir, on a une heure pour se faire plaisir. Alors moi, j'avais envie de démarrer l'émission avec les Deftones, qui viennent de sortir un nouvel album,
ouais.
Un album magnifique, qui s'appelle Homs. Alors, O-H-M-S, voilà. Les Deftones, c'est un groupe de métal américain, et on démarre tout de suite l'émission avec ça dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
Yeah.
c'était Deftones avec Ohms, Olivier, dans Mind Geek Mafia. Alors Ohms, donc, unité de mesure, n'est-ce pas ?
Unité de mesure de la résistance.
Voilà. Et ne pas confondre avec Ohm. Voilà. Ça veut dire maison. Alors, les Deftones, c'est des Californiens. Et là, on retrouve, moi, je retrouve leur ADN, je retrouve le sens de la mélodie, les pulsations, je dirais, des Deftones, qui s'est fait connaître au milieu des années 90, ce groupe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mm-hmm. Sous l'étiquette New Metal, Neo Metal, voilà, à l'époque de Korn, etc. Ouais. Et ils ont eu des hauts et des bas dans leur carrière. Et là, ils reviennent très fort avec un super album, donc. Qui vient de sortir, voilà.
Ouais, c'était super
cool.
Ouais.
C'est cool, hein.
Ouais.
Et alors, tiens, on peut dédicacer le morceau à Héloïse, qui aime beaucoup Deftones, voilà.
Salut Héloïse.
Salut Héloïse.
Salut. Alors, maintenant, on va parler cinéma, n'est-ce pas ? Cinéma, alors on a tous les trois vu des films. Moi, je vais commencer. Après, Olivier va présenter son film sur un joueur de foot.
C'est ça.
Et Pablo, rien à voir, c'est pas du tout du foot. C'est un documentaire, je crois.
Il va y avoir du sport.
Il va y avoir du sport quand même.
Ouais. Un pays qui se tient sage.
Alors
je travaille. Hein,
ouais,
ben
il y a toujours du boulot. Donc on fait quand même des super jingles. Hein, et on remercie d'ailleurs Romain qui a fait ça à la flûte et tout à la bouche. Alors Joseph de Aurel. Alors Joseph, c'est le récit d'une amitié entre un gendarme français et l'artiste Joseph Bartoli qui a fui l'Espagne franquiste. Et c'est un dessin animé, c'est un film d'animation mais bouleversant. Alors voilà, je vous explique. C'est l'histoire d'un adolescent qui est plutôt doué en dessin. Mais vous voyez, il râle et il soupire parce qu'il doit aller garder tout un après-midi son grand-père qui est malade en fait. Et il n'a pas trop envie d'y aller, normal. Mais dans cet appartement, dans l'appartement de son grand-père, il y a beaucoup de souvenirs. Et puis entre deux somnolences de son grand-père, eh bien celui-ci se met à raconter à son petit-fils une histoire folle, pleine de rebondissements. C'est celle de sa rencontre il y a bien longtemps. Une rencontre douloureuse et lumineuse avec un dessinateur, dans un contexte qui, 80 ans plus tard, continue à lui faire honte, parce qu'on est en fait au départ en février 1939, et Barcelone est tombée, Franco a gagné, et 500 000 réfugiés fuient la dictature dans le dénuement le plus complet pour se réfugier dans une France qui les juge plutôt indésirables. Alors, bon nombre de ces républicains espagnols sont des anarchistes, des communistes, ils sont parqués par le gouvernement français dans des camps de concentration, et ils sont en proie à la faim, à la maladie. Et surtout aussi à la xénophobie ambiante. Et puis dans un de ces camps, il y a Serge, qui est donc ce jeune gendarme, qui se lie d'amitié au-delà des barbelés avec Joseph Bartoli, un combattant antifranquiste et dessinateur. Joseph, c'est pas un film d'animation comme les autres, parce que c'est plutôt un grand film dessiné. Ouais. Et Aurel, qui est lui-même dessinateur pour Le Monde et Le Canard Enchaîné, il célèbre la force, il célèbre de l'amitié, en fait, dans ce film. Et d'ailleurs, ce film, il est aussi dédié à Tinius, assassiné lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Et donc, aidé de son scénariste, qui a travaillé avec Robert Guédiguian, Aurel a fait revivre une période un peu occultée de l'histoire, c'est-à-dire la retirada, Pablo, ouais. En espagnol, je ne sais pas comment on dit.
La retirada,
voilà, et donc rend hommage à Bartoli, un grand peintre, travaillant sur la mémoire. Le résultat donc, est très étonnant et très bouleversant. On a une narration puissante, une esthétique aussi très, très, très belle. Et donc, le récit du gendarme Serge, et de ses efforts pour aider son ami ne plus collaborer en fait, à cet enfer, fusionne aussi avec plutôt les traits sombres, rageurs de Joseph, qui témoigne jour et nuit sur papier du quotidien du camp. Voilà. Et donc le talent de caricaturiste d'Aurel s'impose ici. Il y a la trogne des personnages, hein, l'ignoble gardien ressemble à un cochon, voilà. Et puis les tirailleurs sénégalais qui sont là pour surveiller le camp, eux, représentent plutôt la douceur. Parce qu'ils obéissent aux ordres, mais ils attendent l'heure de la vengeance.
D'accord.
Et puis soudain la tragédie arrive. Je vous raconte pas toute l'histoire, hein, et puis on se retrouve avec Frida Kahlo, on se retrouve au Mexique, on quitte le camp.
Ah voilà, oui.
pour voyager dans l'esprit de Joseph et aller vers le Mexique. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un film de résistance, c'est un film sur l'amitié entre les hommes, des hommes qui, malgré tout, chantent, dansent, et se contentent pas, voilà, de subir. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, on a beaucoup aimé ce film, Florence et moi. C'est un film plein d'espoir. Voilà, donc je vous le conseille.
D'accord.
Joseph, c'est un film franco-espagnol. Ça dure 1h12 avec les voix de Sergi Lopez, Bruno Solo, Gérard Hernandez, François Morel, Valérie Lemercier.
Que etc. du bon quoi.
Que ouais, du bon. Bien.
Et dis-moi alors, ouais, donc la caricature aussi. C'est intéressant ça aussi que ça soit un film fait par un caricaturiste.
Ouais. Ouais. Mais ça se sent en fait, c'est-à-dire ouais. qu'on est dans un camp de concentration français, mais on va voyager aussi. Bizarrement, on va se retrouver dans le Mexique luxuriant de Frida Kahlo. Puis on va découvrir la destinée incroyable de ce Josep Bartoli, hein, qui a vraiment existé, qui était à la fois donc un combattant anti-franquiste et un artiste extrêmement célèbre et qui a vécu ces événements et qui s'en est sorti peut-être grâce au
dessin. Et sur le plan historique, alors toi qui es historien, ça...
C'est tout à fait vrai hein, cette histoire. Alors c'était complètement occulté. C'est-à-dire, en France, on parle pas du tout.
Non.
De ces camps qui étaient situés dans le Roussillon.
Ouais.
Vous voyez, autour de. Aujourd'hui, ce sont des plages. Hein. Aujourd'hui, c'est Argelès, c'est Narbonne, tout ça. Donc, voilà. Et les franquistes, les anti-franquistes, pardon, étaient des communistes, ils étaient des anarchistes, donc très, très mal vus par le gouvernement français. Plutôt des indésirables. Donc, il fallait les parquer. Il fallait les cacher, en fait. Et ils se retrouvaient à mourir de faim dans ces camps. Quand certains ont réussi à s'évader, etc. Mais c'est très bien montré dans le film. Mais c'est pas un film didactique qui va vous raconter de façon pesante l'histoire. Non, c'est le parcours de cet artiste et de son amitié, d'ailleurs, avec ce gendarme qui se rend compte, lui, qu'en face de lui, il a un être humain, en fait, qu'il a voilà, un autre humain comme lui.
Ouais.
Et ce qui est beau, c'est aussi la transmission à son petit-fils, 80 ans plus tard. Son petit-fils qui est loin d'imaginer que son grand-père a vécu tout ça, quoi.
Voilà. Ouais, magnifique.
Donc, ouais, magnifique, très très chouette. Joseph Dorel, je vous le conseille, voilà.
Merci.
Superbe.
Oliver ?
Alors moi, je vais vous parler de The Keeper. Alors The Keeper, c'est un biopic sur la vie d'un gardien de foot, donc d'où le nom, hein, The Keeper. Alors encore un biopic, me direz-vous, c'est vrai que c'est la mode. Eh ben oui, mais c'était un très bon, et car la vie de cet homme méritait d'être connue. Et j'ai, je pense, une culture à peu près correcte de ce sport.
Surtout le football.
Ouais, c'est ça. Mais j'avais jamais entendu parler de ce joueur avant ce film-là. Et honte à moi parce que l'homme est vraiment pas ordinaire. Donc je vous raconte un peu l'histoire. En 1944, il y a un soldat allemand décoré à plusieurs reprises de la Croix de Fer qui a combattu sur le front de l'Est. Et il est arrêté lorsqu'il vient combattre sur le front de l'Ouest et déporté en Angleterre dans un camp de prisonniers. Il est sorti du camp pour travailler, mais surtout pour jouer au foot dans une équipe locale pour ses talents de gardien. Et à la fin de la guerre, il refuse l'offre de rapatriement pour rester jouer dans son équipe. C'est pas banal, et donc je vais pas vous dévoiler la suite, mais qui amènera quand même ce joueur, en l'occurrence c'est Bert Trotman, à être élu le meilleur joueur de l'année en Angleterre, et avec un ressentiment très important envers les Allemands, considérés tous comme des nazis et des meurtriers dans cette époque-là. Et en fait, alors le film, c'est vraiment un très très bon film, qui est beaucoup plus basé sur l'homme que sur le joueur d'ailleurs. La place du football, en fait, elle est au second plan, c'est véritablement l'histoire d'un Allemand, d'un Allemand qui a fait la guerre comme nous, sauf que effectivement, lui, c'était du côté des Allemands,
un soldat,
et qui s'est retrouvé en Angleterre, et l'histoire de cet homme à travers une épopée, moi je trouve extraordinaire. Donc je vous invite à le regarder, c'est vraiment un très beau film.
Alors ça, tu l'as pas vu au cinéma, tu l'as vu où ce film ?
Je l'ai vu chez moi.
Ah oui, donc en streaming ?
Oui, je l'ai vu en streaming, ouais, c'est ça.
Ok. Merci Oliver. Est-ce que tu nous rappelles le titre ?
Alors
The Keeper.
The Keeper.
Et le gardien, quoi.
Alors moi je l'ai regardé avec mes garçons. Ils ont adoré. Donc okay. Ça correspond à un film qu'on peut regarder en famille.
Super. Merci Olivier. Pablo, un troisième film ce soir ?
Oui, alors un film un peu coup de poing. Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Donc est-ce que tu veux bien envoyer peut-être ?
Eh oui, c'est vrai que Pablo, tu m'as proposé des musiques. Alors attention, excusez-moi. Bob Marley, Burning and Looting.
Non, la bande-annonce.
Pas du tout, la bande-annonce du film.
S'il te plaît.
C'est parti.
Merci.
Alors, je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne démarre pas. Un pays qui se tient sage, bande-annonce officielle. Pablo, il y a un problème avec ton fichier.
Ok, bon, on va s'en passer alors. C'est pas grave. Bon, écoute,
sinon, je vais la trouver sur Internet. Hein.
Non, mais c'est pas si grave. En fait, c'est un film en fait, qui commence directement par cette citation de Max Weber tirée du savant et du politique. « L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. » C'est sur cette phrase que l'écrivain et philosophe Alain Damasio ouvre le film. Cette phrase servira de fil rouge tout au long du documentaire.
L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires?
Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques.
Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire?
Vous me laissez bosser! Je suis joué!
Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence?
Cette violence, on la connaît, on est né avec.
Donc en fait, le film confronte des images de manifestations et de répression des années 2018-2019 réprimées par les forces de l'ordre, images prises la plupart du temps par des téléphones portables avec des plans fixes et parfois des dialogues en champ contre champ de celles-ci, de celles et ceux qui ont filmé et qui témoignent, qui apparaissent sur les images comme acteurs, en général victimes des violences policières, frappés, blessés, mutilés. Alors, ce ne sont pas seulement les témoins et victimes qui commentent les scènes de violence, mais il y a aussi des intellectuels, responsables et policiers qui échangent leurs réflexions sur la violence, sur la loi, sur la légitimité et sur l'État, sur le peuple, sur l'ordre et sur la liberté. Comme autant de mini-débats, Dufresne cherche à substituer la violence des actes et des images par la violence des idées et du dialogue.
Deuxième musique, Bob Marley and the Wailers.
Je vais bien. Alors, laisse un peu par contre. Accrochez-vous à vos sièges. L'intention du cinéaste, est de nous montrer combien la société française contemporaine est violente et combien les atteintes aux libertés démocratiques sont fortes. L'impression qui en ressort est assez puissante et malaisante. Nous ressentons la peur, l'indignation. Et pourtant, il s'agit d'essayer de comprendre. Nous nous retrouvons au cœur de la mêlée, parfois au cœur de la violence, haletant ou en apnée, comme dans une bataille. Puis, nous sommes avec un des protagonistes qui commente ces mêmes images. Outre les images filmées sur le vif, au cœur de la manifestation, gros plans ou de très gros plans pour être au plus près des visages et des émotions. Cependant, l'émotion n'est pas l'élément le plus important du film, encore moins la pure et simple condamnation des violences policières, ce qui me paraîtrait être réducteur. Il s'agit bien plutôt de réfléchir et de comprendre ce phénomène de la violence policière. La violence, pour la caractériser, on pourrait dire que c'est une manifestation, et pas seulement physique, d'une force excessive. Ici, il s'agit plutôt de la violence politique au sens large, ou de la violence sociale, dont les violences policières ne sont qu'une manifestation parmi trois que l'on peut identifier. La première serait la première manifestation de la violence est proprement politique et économique. Elle est dans la violence des échanges économiques, la compétition et la rentabilité financière, le déclassement social ou encore la lutte des classes. Elle est aussi dans les réformes imposées sans concertation avec le peuple ou ses représentants. La deuxième violence dont il est question, c'est la violence du peuple en révolte. La violence de la rue, des manifestants et des casseurs, des banlieues quand elles s'enflamment. La violence des gens ordinaires qui n'ont d'autre arme que leur indignation et parfois, malheureusement, leur désespoir. D'ailleurs, le film rappelle à juste titre qu'aucun gilet jaune ou black bloc n'a sorti d'armes létales. Aucun fusil ni aucune carabine alors que nous sommes dans un pays de chasseurs. Et enfin, troisième manifestation de la violence, évidemment, c'est celle des répressions des forces de l'ordre qui détiennent les armes, notamment le LBD et les lanceurs de grenades considérés comme des armes de guerre et qui sont censés être proportionnés, cette violence est censée être proportionnée par rapport à une agression plus dissuasive que répressive. Les années 2018 et 2019 ont montré que cette dernière avait été souvent abusive, disproportionnée et donc illégitime. Ces dernières années ont montré que la violence était certes légale, voire même systémique, car clairement assumée et revendiquée politiquement, mais plus légitime, c'est-à-dire comme reconnue, comme juste ou moralement acceptable. Par ailleurs, si on regarde l'affiche du film, où l'on voit deux mains tenir un téléphone portable qui filme un policier en train de frapper un manifestant sur les Champs-Élysées face à l'Arc de Triomphe, on comprend qu'il s'agit aussi d'un film qui interroge la place de l'image dans notre société. L'image, son impact et son importance, comme témoignage direct, quasi instantané, comme moyen d'information, mais aussi comme arme de dénonciation d'une injustice. Mais l'image qui dénonce la violence n'est-elle pas elle aussi un instrument de cette violence ? À ce propos, je souhaite rappeler que nous avons deux relations possibles à l'image, l'idole et l'icône. Nous pouvons rester scotchés à l'écran, fascinés par sa lumière comme des papillons face à des phares dans la nuit, ou nous noyer dans sa contemplation, tel Narcisse dans son reflet. Nous sommes alors arrêtés par la force, l'impact de l'idole, une sorte de faux dieu, comme face à un mur qui ferait écran avec d'autres réalités. Mais nous pouvons aussi voir l'image dans sa puissance évocatrice, comme icône donc, comme une ouverture, une fenêtre sur l'ailleurs, sur autrui ou sur nous-mêmes, comme un effet d'aspiration vers le dehors, hors de nos émotions, hors de nos égocentres, hors de notre intérêt propre. Un film coup de poing donc. Qu'est-ce que la violence ? Quelle est la place de l'image dans nos sociétés contemporaines ? Seb ?
Oui.
3, s'il te plaît. Quelle est la place qu'est-ce que la violence ? Quelle est la place de l'image dans nos sociétés contemporaines ? Et quel est cet ordre que les forces de l'ordre sont censées maintenir ? Comment la sécurité et la liberté peuvent-elles cohabiter dans une société démocratique ? La force policière ne doit-elle pas être au service du peuple plutôt que de l'État ? Je rappelle que police vient de polis grec, en grec, qui veut dire cité, société. C'est ça. Toutes ces questions nous sont clairement posées dans le film. Merci à vous.
Donc c'est, en fait, c'est un film de science-fiction, rien à voir avec la réalité. Donc.
C'est un documentaire. Et donc les violences policières, c'est ça ?
Ouais. Alors les violences policières, mais pas seulement les violences policières, et ça qui est intéressant, c'est un film qui ouvre vraiment la question sur qu'est-ce que la violence, comment perçoit la violence, qu'est-ce que l'ordre qu'on veut maintenir, c'est quoi cet ordre.
Et toi tu nous balances NTM. Mmh.
Voilà.
Merci Pablo.
Merci à vous.
Je n'ai fait que d'être baïonné.
En effet,
comme le fait la société.
C'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeresse
brûle l'État.
Policier en premier, hey. On voit la République brûler. On aime un bûcher,
ouais. C'est la petite chronique cinéma. On récapitule un Joseph. The Keeper.
The Keeper.
Et un pays qui se tient sage. Alors, grâce à la chronique d'Olivier, j'ai pensé à un petit morceau sur le football. C'est la Mano Negra avec Santa Maradona.
Yes. J'adore.
Bon, bande du clin, tiens, sur Radio G.
Sympa, ça.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
Yeah. Diego, Diego, Diego,
Diego, el pibe de oro.
Voilà, c'était la Mano Negra avec Santa Maradona dans Mon Geek Mafia sur Radio G. Merci Pablo. Tout de suite, les séries télé. Ma série préférée, Pablo. Six Feet Under.
Magnifique. Ah, c'est vrai que. Et je crois que c'est aussi aller dans mon top 5 aussi. Ouais.
Moi, elle est en 1, en 2, c'est Soprano et en 3, c'est Breaking Bad.
Ah, je savais qu'il y avait Breaking Bad, mais je crois qu'il y a True Detective. Moi,
ah oui, la première saison était bien. Alors, série télé, je commence rapidement parce que je voulais vous parler de Jonathan Cohen. Alors, j'adore cet acteur, je suis pas le seul. Je vous avais déjà parlé de Family Business, donc je vais pas revenir là-dessus, mais là, il joue depuis quelques temps dans La Flamme. Ah oui. Sur Canal+. Alors, souvent en fait, Jonathan Cohen dans les séries, tout ça, il joue souvent les bons copains, hein, ou les mecs un peu décalés, etc. Mais là, en fait, son humour désarmant éclate dans de mémorables rôles de crétin. Et alors là, il est extraordinaire dans un crétin, mais alors top niveau, ah. Hein, dans un remake du Bachelor. Hein, il doit être séduit par une ribambelle d'actrices plus belles les unes que les autres. Et alors, on voit bien là l'admiration qu'il porte à Pierre Richard, par exemple, ou à Judd Apatow, d'ailleurs. Mm-hmm. Jonathan Cohen, il poursuit son ascension avec La Flamme, donc parodie du Bachelor, comme je vous le disais, où se révèle son irrésistible humour. Et là, attention, humour, mais plutôt version bourreau des cœurs. Mm-hmm. Alors, ce qui est un peu compliqué, parce que bon, Jonathan Cohen, il n'est pas réputé pour ça au départ.
Non, c'est vrai.
Sauf que là, il est face à un casting de prétendantes complètement prestigieux, le casting, puisque je vous fais une petite liste. Hein, alors, elles sont nombreuses, mais il y a quand même Adèle Exarchopoulos. Il y a Géraldine Nakache, Florence Foresti, Céline Salette, Leila Bekti, Laure Calamy, enfin, il y a tout un tas d'actrices. Et alors, il est, je ne sais pas comment dire, mais irrésistible, quoi, Jonathan Cohen. Déjà, il est drôle hein, dans les films, les séries, mais là, ça va très loin, parce qu'en plus de ne pas être sympathique, pour une fois, hein, puisque là, le personnage qu'il interprète est un crétin fini, un abruti total, ouais. Une espèce d'OSS 117, en fait, du monde d'aujourd'hui, hein, okay. Voilà, qui n'a rien compris au monde dans lequel il vit, en fait. Mais Jonathan Cohen, il arrive à le rendre sympathique parce que il a un regard malicieux, sa voix elle est amusée, voilà, il a l'air d'un grand gamin de 40 ans, voilà, qui se marre quoi.
Et c'est drôle.
C'est hyper drôle. Et surtout, il a convoqué donc toutes ces actrices qui sont des amies à lui, donc il y a une complicité,
excellent.
C'est excellent. Parce qu'en plus, il a débuté dans l'impro, Jonathan Cohen, dans l'improvisation. Et après, il a une formation plus classique de théâtre, mais on sent que l'improvisation, c'est son truc. Et donc, il passe du rôle plutôt du pote sympa là, dans les séries que vous avez pu voir auparavant. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il jouait Serge Le Mito dans Bloqué. Après. Mais là, si c'est pas un cérébral, hein, Jonathan Cohen. Mais là, il arrive à jouer autre chose, en fait. Voilà. Ouais. Le type, ce que je vous disais un peu OSS 117, c'est-à-dire le mec complètement à côté de la plaque, sans filtre, voilà, en décalage avec son époque. Mm-hmm. Et donc, c'est tragicomique, mais c'est plus comique que tragique.
Bah, ça fait du bien en ce moment.
Ah ouais, oh là là, ça fait mais vraiment du bien.
C'est une série, alors sans mauvais jeu de mots, qui devient vraiment virale parce qu'en fait, j'ai 3, 4, 5. Groupe de copains, ouais. Et je reçois à chaque fois regarder La Flamme de ces personnes-là qui se connaissent pas du tout. Donc le truc est, je pense.
Ah ouais, c'est génial. Moi j'ai vu pour l'instant les deux premiers épisodes, parce qu'il y en a plusieurs, mais là j'en ai vu que deux. Mm-hmm. Et déjà les deux premiers sont extraordinaires. C'est,
d'accord.
C'est top niveau.
Donc, voilà. Et où est-ce qu'on la voit alors?
Sur Canal+.
Canal+. Mmh.
Voilà. La Flamme. Donc moi Jonathan Cohen. Voilà. Déjà j'étais client, mais là je conseille. Voilà.
Mmh. Ah, super. Merci.
Bien. Merci.
Oliver. Merci,
alors moi j'ai deux séries. Alors la première, vous la connaissez. Moi je l'ai découvert juste là, donc dans cette période un peu morose. Bah, moi en fait je vous proposais une série française, peut-être que certains connaissent, donc ici les gens la connaissent, qui est d'ailleurs qui était diffusée par France 2. Donc c'est bien, je trouve.
C'est
que
10%.
Ça 10%, c'est bien ça.
Et qui est encore diffusé.
Et donc 10% qui fait référence à la commission que prennent les agents pour défendre les intérêts de leurs stars. Et donc en mélangeant comédie et drame, en fait, la série décrit la vie d'une prestigieuse agence artistique, d'acteurs, après la mort accidentelle de son fondateur. Et à chaque épisode, donc une vedette de cinéma ou un chanteur, enfin moins une star, joue son propre rôle avec une certaine autodérision. D'ailleurs,
plutôt. Oui.
Et j'ai vraiment trouvé, je trouve la série vraiment très sympathique, parce qu'en fait, les vedettes, ouais, c'est ça.
Le générique excellent.
Les vedettes qui viennent jouent dans leur dans un rôle qui est crédible. Donc c'est-à-dire qu'on
a l'impression leur propre rôle.
Ils jouent leur propre rôle dans un registre où on les attend et en augmentant les traits. Donc mais c'est vraiment très drôle.
Et en même temps dans un registre réaliste.
Oui, c'est ça.
Voilà, on les voit aussi dans
toutes
vie,
les situations sont réelles.
Hein. C'est ça.
En fait, c'est inspiré de faits réels à chaque fois. D'anecdotes
réelles.
Donc là, moi, j'en suis rendu. Je viens de terminer la saison 2, attaque la saison 3. Et pour ceux qui connaissent cette série, la saison 4, la nouvelle saison, vient d'arriver sur France 2 et que vous pouvez avoir déjà en replay.
Ouais,
est disponible.
Sur France TV. Et alors là, c'est dans la saison 4, il y a l'épisode 3, c'est avec José Garcia. Ah, je vous le conseille.
Ça doit donner.
C'est excellent.
Ah, moi celui avec Berléand de la première saison, j'ai adoré. Hein.
Ouais, moi, j'ai adoré avec celle avec Joey Starr.
Ah ouais,
Joey Starr et
Julie Gayet.
Et Julie Gayet, ouais.
Et il y avait un épisode génial aussi, c'est avec Jean Dujardin qui n'arrive pas à sortir de son rôle.
Oui, ouais. Il est trop fort.
Ah ouais, extra.
Non, vraiment.
Mais voilà, donc 10%. Donc je vous invite à regarder.
Et deux séries françaises pour l'instant, La Flamme et 10%. Ouais, c'est rare.
Bien, bon, là, pas de chance. Donc, seconde série cette fois, donc c'est beaucoup moins léger, mais c'est vraiment captivant, c'est The Outsider. Série américaine inspirée d'un roman de Stephen King du même nom. Donc cette fois, vous pouvez vous en douter, on arrive dans le polar et puis le polar vraiment noir. Donc un garçon de 11 ans est retrouvé mort, le corps est mutilé dans une forêt et la police suspecte un notable, un entraîneur de baseball connu de la ville. Et les problèmes, c'est qu'il est suspecté parce qu'on l'a vu. Donc c'est indéniable. Mais malheureusement, il a été vu aussi, et des vidéos montrent qu'il est dans un deuxième endroit, à un endroit qui ne permet pas de revenir pour tuer la personne.
Ok, donc un alibi.
Donc l'alibi.
Ah.
Et donc là, l'aventure commence.
Ah,
comment
cool.
C'est possible. Et c'est vraiment mais scotchant.
Il y a du suspense là.
Et on reste vraiment dans l'esprit et dans l'univers de Stephen King.
D'accord. Cool.
Avec un côté fantastique qui apparaît ou pas du tout.
Il y a, de toute manière, il y a ce côté, et puis au fur et à mesure, il y a une histoire qui avance, et effectivement, alors sans spoiler, puisque là je resterai quasiment dans l'épisode numéro 2, on se rend compte que ce n'est pas le seul cas qui est avéré que de ce type-là.
Okay.
Et donc tout se lit. Mais c'est vraiment, c'est stressant, mais dans le bon sens, et on vit vraiment bien dedans. Donc The Outsider,
La Flamme, 10%, les séries qui vous sont recommandées par Bang Geek Mafia.
Voilà.
Ouais. Sur Radio G.
C'est 1.5.
Alors, petite interlude musicale. L'autre jour, avec Paul, on a commencé à regarder tous les Tarantino. Donc, évidemment, le générique de Reservoir Dogs, tout de suite dans Bang Geek Mafia.
Excellent.
Sur Radio G.
Yes. 1.5.
Losing my mind. Out of sight in the night. Out of sight in the day.
la BO de Reservoir Dogs. Alors c'est George Baker Sélection, Little Green Bag, de Bande Geek Mafia. Alors maintenant, c'est l'heure du quiz, Oliver.
Yes, sir.
Alors attention.
Jingle.
C'est un truc, c'est caliente ce soir, c'est ça?
C'est soirée caliente.
Caliente.
C'est caliente.
Imaginez la suite, je te fais pas de dessin. Ça risque d'être censuré dans le clip, mais bon, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures et des heures, je lui ai mis la fièvre.
Dis donc, c'est chaud, Olivier, quand même.
Alors justement, mais avant de lui mettre la fièvre, eh bien, il faut réussir à faire monter la température. Et c'est justement donc le.
C'est pas une histoire de virus.
Non. C'est pas prévu, non. Alors, c'est en fait les chansons qui ont été considérées comme des chansons permettant d'amorcer une soirée amoureuse et de.
C'est pour draguer, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pour chauffer l'ambiance.
C'est parti, vous pouvez jouer avec nous. N'hésitez pas à jouer avec nous. Envoyez des messages. Je ne sais plus qui est ce chanteur.
Oh là 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 là.
Alors, moi j'ai une idée, mais je suis pas sûr. Ouais. George Benson ?
Non.
Ah merde. Je ne sais plus qui est ce chanteur. Non, l'idée, je ne l'ai pas, je ne sais plus.
Moi non plus.
Barry White.
Ah, mais c'est Barry,
White.
C'est Barry White, non. Messieurs. Mais bien sûr,
attends,
que si.
Attends, Shazam. Non, mais je te crois,
Mais tu le dis.
C'est marrant, je pensais qu'il avait une voix plus grave, Barry.
Mais en fait, il la reconnaît plus sur sa voix grave. Parce que là, il chante un.
Ouais, il chante bien.
Un octave plus haut, quoi. Carrément. I took the good
times. Il chante bien.
Bon, ah ouais.
Là, c'est clairement des chansons.
Et Oliver. Ah là, Oliver.
One point.
Non, mais tu sais quoi? Je savais pas que c'était Barry White qui chantait ça.
Ah, moi non plus.
Parce que Barry White, il est vieux.
Ouais, mais c'est.
Voilà. Là, c'est la bonne époque, quoi.
Ouais, là, c'est ça.
Ah, j'adore.
Moi aussi, j'adore.
Mais ce soir, vous allez voir les chansons, vous allez tout
comme adorer. Je suis fan de David Lynch, mais je pense à Taylor et Lula. Oh là, quel lover celui-là.
Mais oui. Ça chauffe dans le studio.
Chris Isaac.
Ouais,
c'est ça.
Chris Isaac. Wicked Game.
Ouais.
Ah,
mortel.
This time we go sublime. C'est une des plus belles chansons que je connais. Love is entwined, divine, divine. Love is stranger. Love is pleasure. Oh là là, c'est beau. Love is pure,
the only treasure. T'emballes pas avec ça.
I'm so in love with you.
Alors c'est un quiz spécial pour le confinement.
Un quiz spécial.
Si vous savez pas quoi faire pendant le confinement.
Je dis ça parce que c'est Frankie Goes to Hollywood.
C'est ça.
The Power of Love.
Yes.
The Power of Love.
Mais j'adore cette chanson. Tiens d'ailleurs, je l'adore tellement qu'on la remet. This time we go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger. Love is pleasure. Love is pure, the only treasure. Frankie Goes to Hollywood, c'est pas que Relax, en fait.
Non.
Voilà. C'est aussi ce chef-d'œuvre, The Power of Love.
Ouais.
Oui. Le maître. Notre maître à tous. Ah, ça lui a coûté cher quand même. Ça lui a coûté cher, hein, quand même. Avec son père.
Bah, il a pas aimé.
Son père lui a dit c'est le dernier 45 que tu vas entendre. Tant que t'es mort.
Et voilà.
Mm. Marvin Gaye.
Marvin Gaye.
Ouais.
Sexually.
Ouais.
Ah,
c'est beau.
Quelle voix. That keeps me
alive. Ah oui. I've been licked, washed up for years. And I'm really so. Je connais le titre de la chanson, mais je suis pas sûr du chanteur.
Je connais évidemment, mais alors là je sais.
C'est Many Rivers to Cross.
Ah, yes, sir.
C'est pas Otis Redding ?
Non.
Ah merde. Je sais pas.
Jimmy Cliff.
Ah ouais.
Bien.
Sa période crooner.
La période, voilà.
Pas reggae, quoi. Skip the light, Fandango. Elle a été reprise plusieurs fois, celle-là.
Ouais, je pense que celle-là, il y a eu des enfants qui ont été faits dessus.
Certainement.
In the wider shade of pale. Oui, t'as chef pale, ouais.
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 Et
Procolarum.
Procolarum.
Procolarum, c'est
ouais,
ça.
Un groupe anglais.
C'est son morceau le plus connu.
Bah, le seul quasiment.
Ah ouais?
Ouais, quasiment.
Oui. I used to live alone before I knew you. Magnifique. And I've seen your flag. Quel album, quel chanteur.
Ouais.
Quel con. Bah oui, se noyer comme ça, faut être con. Il va se baigner dans le Mississippi tout habillé.
Ouais.
Non, mais n'empêche.
Bah oui, quand même.
Bah oui, quand même.
Ouais.
Bon, par contre, il chantait bien.
Il chantait bien.
Ah ouais. Alors, donc, Jeff Buckley.
Alléluia.
Ouais, c'est ça.
Qui est une chanson de Leonard Cohen.
Leonard Cohen.
À la base. Hein.
On continue la 8.
Yes. I often pray
before I lay down. Les années 80, cette fois.
Ah ouais. By your
side. Ouais, le son.
Années 80.
Ah, le son. Before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have. Mais par contre, qu'est-ce qui. Ah si, c'est pas. Cool and the Gang.
Gagné.
Ouais, gang, bien joué.
C'est pas dans leur style habituel.
Mais non, justement.
Tout à fait.
Ces gens qui ont sorti. Alors, je me suis refusé quasiment tous les groupes de rock qui ont sorti des.
Still Loving You.
C'est ça. Je m'en suis gardé un quand même pour la fin parce que j'avais envie, mais ça c'est mon truc perso.
Pas mal, hein, ce Cool and the Gang.
Ah ouais, ouais. C'est clair, il y a la voix. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la soul qu'on connaissait habituellement. Ouais. Ouais, voilà.
Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus.
Qu'est-ce qu'on a essayé.
Ah non, elle est réussie parfois. Sur un malentendu. Attention, petit doute. Est-ce que c'est George Michael ou est-ce que c'est Wham?
Ah. Attends, moi je dis c'est Wham.
Ouais, ben je sais plus moi.
Alors,
tu sais que c'est Carless Whisper.
Ouais. Je crois que c'est Wham.
Moi je crois que c'est Wham.
Le chanteur de Wham c'était George Michael.
Ouais, on a pas trop de risques.
On sait qui c'est. Ouais.
45 dans la pièce. L'ambiance
c'est vrai que c'est chaud.
La température monte.
Très très belle sélection. Hein.
Ah ouais, ouais.
Là, tu sais que tu pourrais nous faire une petite playlist
là,
pour la page
groupe,
Bande Mafia.
Bah oui.
Mais ça, c'est un des plus beaux chanteurs. Enfin, c'est un des chanteurs qui a les plus belles voix. Voilà.
Ouais, ouais. Et puis il a un sens du groupe incroyable.
Bah, c'est Billy Withers.
Ouais. 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 Ouais.
Quelle classe.
Ouais.
Bill Withers, honnêtement, pas très très connu en France.
Mais non.
Mais c'est un génie, quoi. Mm. Écoutez cette voix.
Toute en nuance.
C'est pur.
Alors pour finir, je vais te faire plaisir.
Attention, il en reste encore deux.
Il en reste deux.
Et une chanson pour la fin.
Ouais.
Attention, c'est pas la reprise de Face No More.
Non, ça c'est l'original.
Yeah.
Yeah. Wami.
C'est les Commodores.
Gagné. Et le chanteur c'est.
Eh ben, un chanteur très connu.
C'est.
Je vois très bien sa tête.
Lionel Richie.
Lionel Richie.
C'est Lionel Richie, ben oui, c'est ça.
C'est, ouais, ça. C'est ça.
Tout à fait.
C'est Easy.
Ah bon, chiffre.
La reprise de Face No More est quand même un petit chef-d'œuvre.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Il y en a quand même un morceau de rock.
J'ai pas pu m'empêcher.
Pas la drogue. La chanson de celle-là. J'espère qu'elle essaie le refrain. Oh,
il a coupé
le refrain. I wanna know what love is.
J'étais obligé de finir par celle-là.
C'est magnifique. Alors, le groupe
Foreigner.
Foreigner, ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai surpris.
La grosse frustration, vraiment. Un groupe très peu connu en France aussi.
Malheureusement.
Urgent. I wanna know what love is. Alors, il y a une chanson pour la fin, Olivier.
Eh oui, parce que je me suis dit, quand même, il fallait rester dans le ton pour la dernière chanson, et puis je savais que c'était pour te faire plaisir.
Waouh, c'est cool.
Tu vas voir.
Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est beau. Ah ben c'est Bill Withers.
Gagné.
Bien joué.
Lean on me. On l'écoute en entier ?
Oui.
C'est parti. Dans Van Geek Mafia sur Radio G. 101.5.
La radio qui fait le point.
Bill Withers.
Ouais.
Merci Olivier.
Dans Van Geek Mafia.
Sur Radio G.
Oh yeah. Alors l'équivalent pour moi de Bill Withers au féminin, je sais pas si vous connaissez Minnie Riperton. Elle est pas du tout connue en France. Alors Minnie Riperton, c'était une chanteuse de soul funk américaine des années 70 qui est morte très très jeune d'un cancer. Et elle a fait très peu d'albums, 3-4 albums, et c'est juste extraordinaire. Alors vous la connaissez peut-être parce qu'il y a un morceau d'elle dans un film de Tarantino, dans Jackie Brown.
Ah alors ouais.
C'est beau hein. Je vous fais écouter.
Tu nous en dis quelque chose. Ouais, carrément, tu as un petit extrait.
Elle avait 5 octaves.
Ah ouais.
Elle pouvait monter dans les aigus.
Ouais.
Comme une chanteuse lyrique.
Tout à fait.
Two spirits greeting, trying
De couper Minnie Riperton, c'était juste pour vous faire découvrir cette chanteuse incroyable.
Ouais, ouais, superbe.
Qui avait une 5 octaves dans la voix et ouais, qui est morte très très jeune.
Comme Ella Fitzgerald, Maria Callas.
Voilà, des grandes chanteuses.
Ouais, carrément.
Minnie Riperton. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre. C'est un livre qui traite d'un grand cinéaste américain, Tim Burton. Alors, Tim Burton, qu'on a tous adoré, qu'on aime un peu moins maintenant, on est déçu hein, par sa filmographie récente. Mais c'est pas grave, ça reste un grand bonhomme. Ouais. Alors, c'est un livre d'entretien, en fait, avec Mark Salisbury. Donc, on prend toute la carrière de Tim Burton dans l'ordre chronologique, de ses débuts chez Disney, quand il a dessiné Rox et Rookie,
d'accord,
jusqu'à Sweeney Todd en 2008. Je pense qu'il y a peut-être une réédition voilà, pour aller jusqu'à, bah, jusqu'à Dumbo, donc son dernier film, 2019. Et alors, à chaque film, eh bien, il y a des entretiens avec Mark Salisbury où il raconte bah, la genèse du film, comment il a choisi les acteurs, les difficultés qu'il a rencontrées sur Batman, sur d'autres. Voilà. Et c'est juste passionnant. Donc, parce que Tim Burton, c'est un visionnaire. C'est un incroyable conteur d'histoire aussi.
C'est clair.
Et puis, il parle ici à cœur ouvert parce que Mark Salisbury, c'est son ami. Donc, voilà, il lui donne plein d'anecdotes, plein d'infos. Donc, Édouard Romain d'Argent, chef d'œuvre, Sweeney Todd, en passant par L'étrange Noël de Monsieur Jack, Batman. Voilà, c'est le cinéaste qui livre ses secrets dans ce livre, les secrets de sa création. Et il ouvre les portes de son imaginaire qui est souvent peuplé de rêves et de cauchemars. Mmh. Donc c'est un artiste, c'est un génie, un excentrique, c'est un fou, voilà, il est brillant.
Il est brillant, ouais.
Ouais. Il est drôle aussi d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Ouais. Et puis il est loyal vis-à-vis de ses comédiens, par exemple il a fait 8 films avec Johnny Depp. Enfin, voilà.
Il y a une actrice aussi à chaque fois, je ne sais plus.
Bah, souvent ses compagnes jouent dans ses films.
Helena Bonham Carter.
Helena Bonham Carter, avant il y a eu Lisa Marie, ouais, plusieurs. Il est... Et surtout ce qui est super sympa, c'est qu'il n'est pas conformiste, Tim Burton. Et surtout, finalement on découvre qu'un type assez franc, hein, qui dévoile comme ça les secrets de fabrication. Et c'est facile à lire, c'est très agréable. Il y a en plus une centaine de dessins de Tim Burton à l'intérieur.
Ah, génial.
Donc des croquis, de préparation, des storyboards, voilà, de tous ces films d'animation ou des films tournés avec des acteurs. C'est vraiment très chouette.
Ouais, Tim Burton, c'est un sacré conteur. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui t'embarque dans son univers, à la fois qui revient à l'enfance et en même temps qui traite de sujets souvent lourds, douloureux. Je pense par exemple à Big Fish, tu vois, le rapport père-fils, mais comment il le transforme.
Un film un peu à part dans sa filmographie.
Un peu à part. Mais c'est vrai que voilà, il...
Mais ce qui est super, c'est qu'on se rend compte que c'est que d'un film à l'autre, soit il écrit le scénario, mais même quand il écrit pas le scénario, il arrive à trouver quelque chose qui se rapporte à son univers en fait.
Ouais.
Et ce qu'il aime, il explique bien d'ailleurs, ce qu'il aime, c'est les personnages qui sont pas ni bons ni méchants quoi. Les personnages qui sont ambigus, qui sont décalés, qui sont pas à l'aise, qui sont des marginaux, des laissés pour compte. Enfin,
tout à fait. Voilà. Ben c'est vraiment un des artistes qui choisit le parti des freaks quoi, des monstres de la nuit, du sombre.
Et puis
mais
culture,
pour la rendre belle, poétique.
C'est vrai.
Voilà.
Et une culture cinématographique énorme.
C'est surtout quelqu'un qui a un univers qui est tellement fort que de toute manière il laisse pas indifférent. C'est soit on aime et on adore, soit on n'aime pas du tout et on n'accroche pas du tout. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir des gens qui sont pas forcément consensuels et qui.
Même si finalement on se rend compte que t'as raison Olivier, même si finalement on se rend compte que c'est assez varié parce que au départ on est vraiment dans le gothique, voilà. Mais pas seulement en fait, parce qu'il y a des films de science-fiction. Il y a par exemple, vous vous souvenez le remake de La planète des singes aussi.
Oui, tout à fait.
Mars Attacks, c'est hyper drôle.
Et même c'est vrai que depuis qu'il y a eu la trilogie des Batman, des Christopher Nolan, on ne parle plus de ces Batman, mais ils étaient quand même magistraux. Quoi.
Ouais.
Il a une interprétation de Batman qui est quand même, il faudra en parler un de ces quatre, qui est quand même lumineuse et belle, alors que celle de Nolan, elle est parfois quand même. Bon, elle est très sombre, certes, mais elle est limite parfois réac.
Ah bah oui.
Et Nolan, on peut se demander.
Bah Nolan, il est réac. Bah, me lance pas sur Nolan.
Voilà. Et pourtant, moi j'aime Nolan, mais il y a ce côté-là, clairement chez Batman. Alors que là,
Batman le
défie.
Vous vous souvenez de Catwoman?
Ben voilà. magnifique.
On se souvient tous de Catwoman.
Oui. Tous, c'est clair.
Alors la question, c'est il a commencé avec Roxy Rookie, on finit par Dumbo, est-ce que la boucle est bouclée?
Non, j'espère qu'il va continuer à faire des bons films.
Moi aussi,
parce que alors, c'est vrai qu'au départ, tous ces films sont bons, c'est-à-dire que vous voyez Beetlejuice, Batman, Édouard Romain d'Argent, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ed Wood, Mars Attacks, enfin on enchaîne Sleepy Hollow, on enchaîne les chefs-d'œuvre. Et puis à partir de alors Charlie et la chocolaterie, c'est bien encore.
Ah, c'est pas mal. Sweeney Todd, quand même, hein.
C'est à partir d'Alice au pays des merveilles en 2010 que ça se gâte en fait.
Ouais.
Là, Alice au pays des merveilles, c'est son plus grand succès. Hein.
Ouais,
au niveau du box-office. Ouais. Par contre, c'est son plus mauvais film. Car.
Ouais.
Dark Shadow, c'était marrant.
C'est peut-être le plus consensuel.
Ouais, exactement.
Ouais,
avec La planète des singes, c'est clair. Et alors, un que j'avais complètement oublié, c'est son premier film, son premier long métrage, parce qu'il a fait beaucoup de courts métrages comme Vincent ou Frankenweenie. Son premier long métrage, c'est Pee-wee Big Adventure. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film où Pee-wee cherche son vélo.
Ah mais oui.
Pee-wee Herman, c'est un comique américain. Ouais. En fait, il a fait un film avec lui. Pee-wee cherche son vélo. Moi, j'aimerais bien le revoir, ce truc.
Carrément, c'était hilarant, ce truc.
Ouais, c'était pas mal.
Ouais.
Voilà, c'était Bande Geek Mafia.
Bah, en tout cas, merci Sébastien.
Votre émission Info Culture, je vous en prie. Tous les mercredis à 19h sur Radio G. Merci Pablo.
Ben merci à tous et merci à vous.
Merci Oliver.
Ouais, merci bien.
Alors, on sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver. On va écouter le président. Non. On espère la semaine prochaine.
Ouais, on espère, bien sûr.
On vous embrasse. Prenez soin de vous.
On trouvera un moyen. Gros bisous.
Restez à l'écoute de Radio G.
On disait protégez-vous, mais protégez-vous.
Sortez couvert avec un masque. Salut.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G. 101.5.